97, toi.
Ici Félix-Antoine Parent, bienvenue à l'émission L'Heure Juste en ce 24 janvier. J'espère que vous allez bien, bien heureux de vous retrouver aujourd'hui à l'émission. Encore une fois, un menu chargé aujourd'hui. On jase avec le bras outaouais qui œuvre auprès des gens qui ont des dépendances, entre autres parce que leur mission est large, mais qui a détecté la présence de plus en plus fréquente de fentanyl en Outaouais dans du méthamphétamine. Donc, ça inquiète, ça préoccupe l'organisation. On en reparle tout à l'heure. C'est une entrevue qui a été réalisée par Alexis Goyer du service de nouvelles de CHGAFM. Mylène Caron, elle a participé à un panel d'entrepreneurs à l'occasion d'un brunch du Nouvel An de la Chambre de commerce de Maniwaki, vallée de la Gatineau, en fin de semaine. C'était plusieurs entrepreneurs qui étaient invités pour parler de leur parcours, leur réussite. Donc, je voulais m'entretenir avec l'un des panélistes et pourquoi pas Mylène Caron, donc une jeune entrepreneur qui, en plus, est mère de famille. Donc, c'est de concilier le travail et tout ça, la vie professionnelle. Ça doit pas être simple. On va lui poser des questions tout à l'heure. Et dans les prochaines minutes, on jase avec Karine Dauteuil, présidente du syndicat des professionnels en soins de l'Outaouais, pour parler d'où est-ce qu'elles en sont rendues dans leurs négociations. On voit que c'est, il y a encore des endroits où ça achoppe au niveau de la flexibilité, entre autres. Le gouvernement veut se conserver de la flexibilité. On en reparle dans un instant. Ça va être très intéressant. Restez des nôtres. Mais d'entrée de jeu, c'est avec M. Daniel Boisjoli, le président du syndicat du personnel de l'enseignement des Hautes-Rivières, avec qui on s'entretient. M. Boisjoli, bonjour.
Oui, bonjour, M. Parent.
Et j'avais bien hâte de vous parler, parce que cette semaine, les professeurs, les enseignants du centre de formation, centre de service scolaire des Hauts-Bois de l'Outaouais, donc que vous représentez, ont eu à se prononcer concernant les ententes sectorielles, intersectorielles. Écoutez, on vous écoute, on est bien curieux d'entendre les résultats.
Ben, d'entrée de jeu, M. Parent, j'aimerais faire la distinction là entre ce que c'est la négociation sectorielle et la négociation intersectorielle. Je pense que c'est pas tout le monde qui est confortable avec ça. Quand on parle de négociation sectorielle, là, on fait référence au contenu là qui ne touche que notre secteur, soit l'enseignement. Alors, on fait référence à ce moment-là à la semaine de travail, des contrats, la majoration de traitement propre au personnel enseignant, mais aussi la composition de la classe. Et puis quand on parle de négociation intersectorielle, on fait référence au contenu là, de tout ce qui touche les employés de la fonction publique, notamment les paramètres salariaux, la retraite et les droits parentaux.
Ça, c'était ce qui était débattu par le Front commun, là.
C'est ça, négociation intersectorielle, là, c'est négocié là, pour toutes les catégories d'emploi là, de la CSQ, là, mais regroupées en front commun.
C'est important de faire la distinction parce que les deux votes n'ont pas donné les mêmes résultats.
Vous avez tout à fait raison. Là, on avait deux libellés différents, là, un pour le sectoriel, les conditions de travail du personnel enseignant, et un pour les paramètres là, salariaux qui relèvent de l'intersectoriel. Alors, on était en assemblée lundi cette semaine, et puis en soirée, et puis effectivement, là, le personnel enseignant a refusé là, majoritairement, à forte majorité, l'entente, la proposition de règlement sectoriel. Et là où ça accroche, c'est vraiment au niveau de la composition de la classe, c'est là où le bas blesse.
Est-ce que vous attendiez ce résultat-là au niveau local?
Ben écoutez, avant de se retrouver en assemblée, on a tenu une séance de conseil d'administration où on avait les différents responsables de secteur là, pour l'ensemble du territoire d'Hautbois l'Outaouais. Puis je dois vous dire que ça a été accueilli assez froidement là, la proposition de règlement, parce qu'il faut comprendre là, que, puis notamment au niveau de la composition de la classe, parce qu'on sait là, que le cœur du quotidien des enseignants, qui était aussi le cœur de la négociation, c'était ça. Puis la demande, le principe central là, derrière nos demandes syndicales sur la composition de la classe, c'était vraiment de tenir compte des élèves en difficulté afin d'avoir des groupes là, qui soient beaucoup mieux équilibrés de ce qu'on retrouve aujourd'hui dans nos classes.
Et au niveau intersectoriel, par exemple, le vote, encore, c'est pas une grande majorité, mais une majorité de vos membres qui l'ont appuyé.
Oui, les gens ont accueilli plus favorablement là, l'entente intersectorielle, mais pas à très forte majorité non. Quand même, là, à 63,4%. C'est très peu là parce que il faut comprendre que L'augmentation vient, couvrir l'inflation, mais c'est au niveau du mécanisme d'enrichissement à ce moment-là. Il n'y a peut-être pas, on n'a peut-être pas atteint les objectifs que les gens, qu'on s'était fixés là, pour avoir un certain rattrapage salarial, considérant que la négociation précédente n'était pas venue couvrir là, la totalité de l'inflation.
On en est où, donc? Une fois qu'on sait qu'il y a une des propositions qui a été rejetée, l'autre acceptée, qu'est-ce que ça veut dire pour la suite des choses, M. Boisjoli?
Bien, sur le volet sectoriel, là, on est encore dans l'inconnu parce qu'il faut attendre les résultats de la majorité des syndicats qui sont affiliés à la FSE, là, qui est la Fédération des syndicats de l'enseignement, pour savoir comment on va se gouverner. Mais ça sera pas avant la mi-février, quand on va avoir l'ensemble des résultats. À ce moment-là, on sera en mesure de se positionner, développer des stratégies, soit revenir en négociation, parce que vous savez, si c'est accepté par la majorité de la FSE, bien, ça devient également nos conditions de travail, même si on l'a refusé. Mais ça, il faut attendre là, d'avoir les résultats. Ce ne sont pas tous les syndicats affiliés. Là, il y a beaucoup d'assemblées cette semaine, mais il reste encore des résultats à rentrer là, d'ici début février.
C'est tout un processus, hein, quand on a commencé ces moyens de pression au niveau du renouvellement des conventions collectives, le renouvellement, les négociations, bon, je disais moyens de pression. Est-ce que vous attendiez, quand on a commencé ça il y a plusieurs mois, est-ce que ça perdure encore jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que vous attendiez que ça soit plus rapide ou c'est un déroulement normal pour un processus d'une telle ampleur?
Bien, quand on a commencé la négociation, là on parle de... Il y a un an, là, bien entendu, ce qu'on souhaitait, c'était une négociation rapide pour éviter d'étirer ça dans le temps et mettre des solutions en place le plus rapidement possible pour venir soutenir nos élèves dans nos classes, mais aussi améliorer le quotidien du personnel enseignant. Malgré le fait que nos agents négociateurs là, ont donné énormément de disponibilité à la partie patronale, ben c'est malheureux de constater que ce n'était pas un priorité pour le gouvernement à ce moment-là, ni du Conseil du Trésor, ni par les agents négociateurs là, à la table avec la FSE. C'était pas une priorité. En fait, là, on s'est retrouvé jusqu'au fait à négocier, alors que on sait qu'on aurait pu déployer des avancées plus vite pour éviter de se retrouver en conflit de travail. Parce que le gouvernement, s'il avait donné, par exemple, les mêmes enveloppes que le plan de rattrapage, s'il avait mis ça dans nos conventions au mois d'octobre, on n'en serait pas là. On n'en serait pas là du tout au niveau de la composition de la classe. Puis on aurait eu des sommes qui auraient été conventionnées, qui auraient été pérennisées dans le temps pour nous permettre de mieux intervenir auprès de nos élèves. Mais c'est toujours ce qu'on reproche. Nous, on veut pas étirer ça dans le temps parce que ça essouffle tout le monde. Ça, vous avez vu ce qui est arrivé, là. Alors, c'est pas souhaitable.
Écoutez, on va voir la suite des choses. Donc, dans le fond, on se redit au 15, on laisse passer la Saint-Valentin. Et au retour, eh bien, on pourra se jaser pour voir qu'est-ce qu'il y en a à l'échelle du Québec. Est-ce que vos membres auront, pas commencé, mais je veux dire, est-ce que l'esprit de vos membres aura été respecté ailleurs en province ou est-ce que certains syndiqués auront fait le choix contraire au niveau sectoriel? Ben, on va bien de voir ça, la suite des choses. Et j'imagine qu'il y a bien des parents également qui se questionnent par rapport à la suite des choses. Le mot de la fin, M. Boisjoli?
Ben écoutez, moi, je salue le courage de nos membres là, de faire ces sacrifices-là, puis de s'être prononcé, d'avoir pris le temps d'analyser comme il faut la proposition d'entente de règlement sectoriel. Puis je peux vous dire que nos profs au bout de l'Outaouais sont extrêmement mobilisés puis pour améliorer les conditions de travail, mais également les conditions de réussite des élèves. Puis ça, ben c'est tout en leur honneur.
Daniel Boisjoli, vous êtes président du syndicat du personnel de l'enseignement des Hautes-Rivières. On vous reparle assurément dans les prochains jours, prochaines semaines, pour avoir la suite des choses là, pour annoncer aux syndiqués, mais également aux parents, à tout le monde que ça touche, ces négociations-là, le résultat. Pour la suite des choses, merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie, M. Parent. Passez une belle journée.
Pareillement. Donc, écoutez, bien intéressant. On va suivre la suite des choses à ce niveau-là. Et qu'en est-il au niveau des professionnels en soins de l'Outaouais? Ben, on aura la réponse dans un instant. On s'entretient avec Karine Dauteuil, présidente du syndicat des professionnels en soins de l'Outaouais.